Chapitre 45. Il faut que je te parle d'un truc, Serge. C'est au sujet de l'affaire des disparus. Charcot et Amandier n'avaient pas perdu de temps. En ce début de matinée, ils filaient déjà en direction de la maison de Félix Coty. Einstein et Santucci suivaient dans une autre voiture. L'objectif était de placer l'homme en garde à vue et de le ramener au 36. Je t'écoute. Charcot n'ignorait pas le risque qu'il prenait en abordant cette question avec son collègue. Mais depuis qu'il avait rangé la page 145 dans la bulle, ni vu ni connu, il éprouvait le besoin de partager une partie de ses découvertes. Au temps où t'étais le chef de l'enquête, vous n'avez jamais songé que le tueur pouvait avoir un rapport avec le milieu du secourisme, qu'il soit ambulancier ou urgentiste, par exemple? Amandier jeta un œil dans son rétroviseur et bifurqua sur l'autoroute A10. Puis il adressa un regard réprobateur à Charcot. Un urgentiste? Qu'est-ce que tu racontes? Ces gars-là sauvent des vies. C'est ta biture de Noël qui t'a collé dans la tête une connerie pareille? Franck en conclut que Titi avait, à l'époque, gardé ses réflexions pour lui, et que tout le monde ne lisait pas la bulle. Il s'empara d'un sachet plastique dans la poche intérieure de son blouson, en sortit son opinel numéro 8 et des ciseaux en métal, à lame courbe. Je suis passé aux urgences de l'Hôtel Dieu avant d'arriver au bureau. J'ai discuté 2 minutes avec un médecin qui m'a donné cette paire de ciseaux. Le personnel d'intervention en possède de plusieurs types, dont celui-ci. Si tu compares les lames avec celles de l'opinel numéro 8, l'arme a priori utilisée par notre meurtrier, tu vois qu'elles sont presque identiques. Tout en faisant attention à la route, Serge se saisit des instruments. Il les observa rapidement et les rendit à son collègue. Il y a de la ressemblance, mais c'est pas tout à fait la même chose. Je sais. À mon avis, c'est quand même suffisamment proche pour causer des plaies qui ont des caractéristiques très similaires, notamment avec cette histoire de courbure. Le légiste aurait pu se tromper. Charcot sentait qu'Amandier faisait un blocage. C'était sans doute difficile pour lui de découvrir une piste à laquelle il n'avait pas pensé. Ce qui amenait Franck une nouvelle fois à s'interroger. Pourquoi diable personne n'avait-il pris connaissance de la note de Titi avant qu'elle ne disparaisse? Van de Velde est un excellent légiste. Il a parlé d'un modèle de couteau, pas de ciseaux, fit Serge. S'il a été aussi affirmatif, c'est qu'il était sûr de lui. Je ne remets pas en cause ses compétences. C'est juste que... Franck manipula l'objet de manière à le maintenir ouvert. On peut imaginer qu'il ait frappé ses victimes avec une seule lame, de cette façon, mima-t-il en fendant l'air, pour brouiller les pistes et éviter qu'on ne pense à des ciseaux. Mais il n'y a pas que ça. Le tueur a également découpé les vêtements des 3 femmes avec une technique qui n'est pas sans rappeler celle pratiquée par les urgentistes pour déshabiller leurs patients, verticalement, de bas en haut. Serge semblait réfléchir. Il y a aussi les lieux où l'assassin a sévi, continua le jeune inspecteur. Dans des arrondissements différents, certes, mais proches les uns des autres. Ça pourrait coller avec les interventions d'une ambulance, puisqu'ils sont tributaires des appels au 15 et au 18. Et si notre homme s'était servi de ses déplacements professionnels pour repérer ses cibles? Son coéquipier ne disait plus rien à présent. Franck devinait ce qui se passait dans son esprit à ce moment-là. Toutes ces années d'enquête qui défilaient en vitesse accélérée, et les connexions qui, soudain, s'établissaient grâce à cette hypothèse inédite. C'est un urgentiste, répéta Charcot. J'en mettrai ma main au feu. Amandier finit par hocher la tête, puis regarda dans son rétroviseur, comme s'il avait peur que le Corse ne puisse entendre leur conversation. D'accord, ton hypothèse mérite peut-être qu'on s'y penche. Un peu. Est-ce que t'as discuté de ça avec Santucci? T'es le seul à être au courant. Faut surtout rien lui raconter pour l'instant, sinon il va récupérer cette affaire-là à son compte. Ça me retournerait le bide qui profite encore du travail de notre groupe. D'ailleurs, tu vas en parler à personne, pas même à Florence, au Glaive ou à Einstein. Ils sont de notre côté, bien sûr, mais plus de gens sauront, plus il y aura de risques que ça remonte aux oreilles du Corse. Ça reste entre toi et moi, ok? Qu'est-ce que tu veux faire? Remballe tes instruments et planque-les dans ma boîte à gants. On va procéder dans l'ordre, calmement. Dans un premier temps, je vais aller voir Van de Velde et lui demander si tes ciseaux concordent avec les plaies des victimes. S'il confirme, on va se retrouver avec des centaines de profils sur les bras. Un vaste merdier, tu t'en doutes. Je sais comment restreindre les recherches. J'ai des dates et des lieux précis d'intervention. Serge tourna brusquement la tête vers lui. Quoi? Franck désigna la route du menton pour que son collègue se concentre sur sa conduite. T'iras d'abord voir le légiste. Je t'expliquerai comment j'ai découvert ça après. Mais c'est possible qu'on le coince, Serge. Après plus de 5 ans de traque, peut-être que tu vas mettre enfin ce salopard derrière les barreaux. Amandier serrait le volant des deux mains, et sa crispation n'échappa pas à Charcot. Je sais pas d'où tu sors, petit, mais je commence à bien t'aimer. Ils arrivèrent à destination 1 demi-heure plus tard. Ils se garèrent sur le parking du garagiste qui sortit cette fois encore pour gueuler et se musela instantanément quand il reconnut Serge. Comme la fois précédente, mais en plus grand nombre, les flics passèrent par l'arrière. Ce coup-ci, la voiture de Scotty était accolée à des piles de pneus et de tronçons de bois. Ils rejoignirent rapidement la porte d'entrée. Les bottes en caoutchouc, les gants maillés et la pince se trouvaient toujours au même endroit. Sur la gauche, Frank dénombra 3 chats morts recouverts de poudre blanche. La vitre crasseuse avait été recollée ou simplement scotchée. En tout cas, elle s'effondra d'un bloc lorsque Santucci frappa du poing sur le vieux bois. Il échangea alors un regard avec ses subordonnés, puis se baissa au niveau de l'encadrement pour voir à l'intérieur.
« Félix Scotty, c'est la police, amène-toi !»
Pas de réponse. Santucci répéta la sommation. 10 secondes s'étirèrent dans le silence, puis il tourna la poignée. Le bâton n'était pas verrouillé. Serge lui agrippa le bras.
« C'est pas que je t'aime bien, mais il y a le serpent le plus dangereux au monde en liberté là-dedans. Les tonnes de journaux au sol, c'est pour que la bestiole se planque. Scotty nous a expliqué qu'il se tapait des parties de cache-cache avec son reptile. »
Le chef de groupe referma d'un geste vif et s'écarta vite de là. Amandier fit 2 pas en arrière et sortit une cigarette.
« Mais si tu comptes quand même aller y faire un tour, te gêne pas. Ce serpent... »
Le flic s'arrêta net au milieu de sa phrase, le regard tourné vers l'amas de tôle à quelques mètres, contre la palissade.
« Attendez, j'ai l'impression que... »
Il s'approcha. Une main dépassait entre 2 plaques ondulées. Les doigts pendaient avec mollesse dans le vide. Les ongles avaient viré au violet, et l'annulaire droit portait une chevalière en argent. Sur la tôle, une poupée en toile de jute piquée d'aiguilles. Elle était grossière et effrayante, affublée de boutons de chemise sombres à la place des yeux, d'une bouche qui se résumait à une cicatrice de fil rouge enchevêtré, et de cheveux qui n'étaient rien d'autre que des morceaux de laine jaune.
Une poupée vaudou.
Amandier fit signe à ses collègues de venir et enfila ses gants en cuir.
C'est Scotty. La sorcière lui a fait la peau, bordel.
Le visage du Corse était aussi figé que ceux des statues de l'île de Pâques.
Eh merde, c'est pas vrai.
Sous le contrôle de Santucci, Serge souleva la tôle opaque, dévoilant d'abord un bras percé de 2 trous où avait séché un peu de sang. Une morsure. Il poussa un cri et tomba à la renverse sur les gravillons en découvrant le reste du corps. Félix Scotty était nu. Il avait été mordu par le serpent à de nombreuses reprises. Ses yeux grands ouverts louchaient vers l'interminable langue noire qui descendait vers son menton, longeait son torse et disparaissait entre ses cuisses écartées. On lui avait enfoncé la tête du mamba mort jusqu'au fond de la gorge.